R22 tout le monde présente
relecture.
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 Relecture en réécoute. Antenne Kiasma.
Bonsoir à tous, merci d'être là. Moi, si je suis ici ce soir, c'est parce que il y a 6 ans, j'ai entrepris un voyage à travers Street View, ce petit outil de localisation qui nous permet à tous de voir à quoi ressemble une boutique, un hôtel ou un lieu de rendez-vous. Au départ, en fait, ce travail a pris la forme d'un blog. Pendant 4 ans, il y a eu un voyage par jour, en fait, donc une petite visite d'un lieu de Street View et un texte mis sur le blog, en fait, 365 jours sur 365. Depuis 2 ans, j'en fais 5 par semaine, du lundi au vendredi, et le week-end, je fais relâche. Et voilà. Ensuite, ce travail a débouché sur un livre qui est celui-ci, qui s'appelle Éclat d'Amérique, qui est sorti chez Inculte et qui est le récit d'un voyage virtuel, toujours à travers Street View, des 50 États des États-Unis. C'est très fictionnel. En fait, je vous raconterai après comment je l'ai écrit, mais voilà, il y a eu ce livre. Et ce soir, en fait, je vais articuler ma présentation en 3 temps. Je vais d'abord vous montrer un film qui a été réalisé dans le cadre du festival MAP à Toulouse, qui est un festival de photos, qui est un film de 11 minutes réalisé par Antoine Ferrando, qui était donc commandé par le festival, qui est écrit à partir des textes et des images qui ont servi à faire ce livre. Et ensuite, j'essaierai rapidement de vous présenter mon travail et de vous convaincre du caractère génial du voyage dans Street View. Et je finirai par une lecture d'extrait d'Éclat d'Amérique, sachant que le livre contient 150 textes. La plupart sont des fictions qui sont assez longues. Le livre fait 500 pages. Donc là, je vais faire quand même court. Généralement, j'aime bien que les lectures soient courtes. Et donc, je vais lire des extraits d'extraits. Et j'ai recomposé un petit texte à partir d'extraits du livre. Et voilà. Et je crois qu'on peut lancer le film.
Tout le monde pense que je voyage dans l'espace. Et en réalité, je voyage dans le temps, dans le passé. Au milieu de fantômes. Bien sûr, il y a tous ces noms de villes par lesquelles je suis passé. Moi-même, j'ai longtemps pensé que si je me déplaçais, c'était essentiellement dans l'espace. Des latitudes, des longitudes, des kilomètres, des miles. Mais de plus en plus, je réalise que je plonge chaque jour dans un passé. Parmi les gens que je croise, certains sont morts. Les gens que je croise ne sont pas de chair. Ce ne sont que des traces fantomatiques. Plus que de vivre ailleurs, ils vivent dans un temps révolu. Celui des images que je traverse.
Alors du déjeuner, j'étais repassée par Missoula, puis voilà, je suis repartie, j'ai repris la route.
J'ai laissé passer 5 minutes encore. Je n'osais pas me lever.
Nous avons pris une autre bière. Et puis voilà, je suis repartie, j'ai repris la route. Je suis revenue m'allonger sur le lit. J'ai passé la soirée à traîner devant la télé. Notre conversation s'est arrêtée là. Et puis voilà, je suis repartie, j'ai repris la route.
Le Dayin est un hôtel à l'apparence de motel, de coursive extérieure. Une 60aine de chambres. Le ciel est plombé.
Aujourd'hui, nous avons roulé. C'est Diane qui a conduit. Elle voulait me faire découvrir son Michigan natal. 3h30. Je viens d'essayer de prendre une photo d'elle endormie, mais il n'y a pas suffisamment de lumière pour saisir les grains de beauté. Sur l'écran ne subsiste qu'une forme floue et sombre, là où dans le réel je vois un corps. Faute de pouvoir prendre une photo, j'ai sorti un carnet. Les hanches de Diane sur ma page ressemblent à deux cours de rivière, entre lesquels s'épanouissent des villes invisibles. Ces villes, je les baptise de nom. Hollande, Alençon, Sipinbeer, Saul, Marie.
The things you said weren't the truth.
Your parents wanted you to listen to luxuriamusic.com.
J'ai pris ce mec à la sortie d'un patelin qui s'appelle Adèle. Je pensais qu'il était en panne. Je me suis arrêtée. En fait, la voiture qui était garée un peu plus loin n'était pas la sienne. Alors que nous venions de contourner Omaha, il s'est raclé la gorge et m'a demandé d'où je venais. Quand il a su, il s'est exclamé en partant dans les aigus, « Jack Demi ». Sa femme était fan. Elle lui a fait tout regarder. Et là, aux abords de Lincoln, ce type s'est mis à fredonner un air des parapluies de Cherbourg. Il avait une voix à Chet Baker. J'en ai eu la chair de poule. Au bout de 10 kilomètres, il se racle à nouveau la gorge et s'exclame. Des fois, je me dis, si j'avais aimé ça, je veux dire vraiment, ces putains de films, elle ne serait pas partie.
For shock value, Marilyn, I suggest you look in the mirror.
M'endormir. J'ai bu un grand verre d'eau et puis un autre. Je me suis habillée. Enfin, j'ai juste enfilé un boxeur, un t-shirt. Faudrait que je pose ma tête sur le volant ou que j'incline mon siège. J'ai appuyé en vain sur l'interrupteur du ventilateur. Il fait toujours trop chaud dans les hôtels en Alaska. J'ai vomi, puis voilà, je suis repartie, j'ai repris la route. Je me suis engagée sur la droite. Je suis maintenant dans un lieu de Raresh.
Well, then put it 2 foot from where it is. No, a foot down from where it is now, Bucky.
Grandbart!
What?
Grandbart!
Bucky, just lower it 2 foot, will you? From there. No, Bucky, it's going up. I want it.
Séjourner sur sa portion de trottoir, vautrée dans son fauteuil pliant, son sac sur les genoux. Personne ne sait d'où elle vient, ni comment elle a récupéré son tigre. Personne ne sait comment elle s'appelle vraiment. On ne connaît que son prénom, Mona. Quand on lui propose de l'aider, elle part dans un éclat de rire sans fin, comme si on venait de lui raconter une bonne blague. J'ai rencontré Cindy à Milwaukee, dans un bar situé pas loin de la Milwaukee River. Elle m'explique. Toute personne qui dort chez moi est tenue de laisser un mot dans mon livre d'or. Je ne connais personne encore qui y est échappé. Seulement éclairée par la lumière qui parvient du couloir, je feuillette. J'adore chez toi. Tout te ressemble tellement. Sacrée suceuse aussi. Moi j'ai bien aimé la levrette, signé Jacques de Ripper.
Dans le véritable amour, c'est l'âme qui enveloppe le corps, Nietzsche. Un jour, je buterai tous ces enfants de salauds qui t'ont baisé.
Maintenant j'ai leur nom. B. Tiens, B est déjà passé par là. C. Quel cul. je n'attends qu'un. Je me demande ce que moi je vais pouvoir écrire. J'ai la nuit pour réfléchir. Cinéma à l'ancienne sur lequel étaient peintes des images représentant des scènes du magicien d'Oz, des traces de rouille sur des enseignes Coca-Cola. À Montgomery, j'ai vu un type trimbalant ses seules richesses sur un diable. J'ai vu de la neige sur les trottoirs et des traces de pas en creux dans cette neige. J'ai vu des immeubles 1900 se refléter sur une façade de verre, une église de briques couverte de lierre. J'ai lu l'heure à une horloge et il était midi 25. J'ai vu des panneaux, mes initiales sur une enseigne, une vue sur la ville, de nuit, du haut d'un restaurant panoramique, des lignes à haute tension au-dessus des habitations, un éclat dans le bois d'un poteau électrique. Et puis deux, trois pavillons, des gens aperçus dans des jardins, ou alors des voitures à pédales, des paniers de basket. Et quand je lis perme, je crois lire sperme. Sur un parking, un skater qui paraît sorti d'un film de la réclame, devant un centre commercial des véhicules garés, une femme qui s'active.
Et moi, là, dans cette voiture, face à des paysages qui me seront bientôt lointains, j'aimerais que rien ne s'efface. J'aimerais que tout soit réactivable à chaque instant, à tout jamais. Je rêve d'un monde dans lequel il suffirait d'un clic pour se retrouver parachuté dans l'espace du passé.
Donc voilà, en fait, dans ce film, toutes les images, en fait, viennent de, absolument toutes viennent de Street View. Moi-même, quand je le regarde, là, en fait, je ne l'avais pas vu depuis, depuis un an. Je suis surpris. De la richesse de type d'image qu'on peut trouver. L'aventure Dreamland a commencé donc il y a 6 ans. En fait, j'étais sur un tapis roulant de la station Châtelet-Liale et je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant d'essayer de voir ce que ça donne de tenir un voyage dans ce monde-là. C'est le genre de réflexe que j'ai régulièrement dans ma vie. En fait, j'ai longtemps beaucoup regardé, par exemple, les images de webcam à travers le monde. J'avais des spots comme ça. Il y avait un port en Norvège qui s'appelle Alesund, où il y avait beaucoup de webcams. Et donc, je pouvais passer des soirées à regarder une voiture circuler d'une webcam à l'autre. Ou j'aimais bien aussi me projeter virtuellement à travers une webcam dans Kemerovo, qui est une ville de Sibérie. Et généralement, quand c'était le soir ici, c'était la nuit. Là-bas, il était 4 heures du matin. Et donc, de voir une ville de Sibérie sous la neige à 4 heures du matin, donc avec peu de circulation, et tout ça, ça me ravissait. Encore plus jeune, quand j'étais enfant, une de mes lectures favorites était les guides rouges Michelin. En fait, je passais mon temps je demandais à mes parents, je peux avoir le guide rouge Michelin. Et je regardais les plans de sous-préfectures et j'essayais d'imaginer les vies des gens qui vivaient dans ces sous-préfectures ou dans ces préfectures. Enfin, voilà. Il y avait des villes qui étaient très circulaires, il y avait des villes qui étaient très, très en expansion. Et ça, et j'essayais de me dire, je me souviens que je me disais, mais à quoi ça ressemble la vie dans ces endroits, quoi. Et à peu près à la même époque, j'avais soudoyé mon frère pour qu'il me prête son appareil photo. J'ai un frère qui est plus grand que moi. Donc je vais avoir 7-8 ans, lui avait 16 ans. Et je lui avais soudoyé un appareil photo et une pellicule noir et blanc pour faire un panoramique du balcon de chez mes parents. Et j'avais essayé de faire un panoramique le mieux possible. Mais à 8 ans, quand on fait un panoramique, le panoramique est quand même relativement moyen. Mais j'étais quand même content. J'avais une sorte de panoramique de la vue de ce qu'on voyait de chez nous. J'avais collé toutes mes images sur des feuilles consoles qui étaient scotchées les unes aux autres. Et puis j'avais fait des traits verticaux et horizontaux et des petits A, des petits 1 pour marquer des abscisses et des ordonnées. Et je passais mes mercredis après-midi à noter dans un carnet en A3, il y a une dame qui promène son chien, en B5, une voiture qui s'est garée. En fait, j'éprouvais déjà le besoin de faire une sorte de compte-rendu du monde, un peu, j'en ai bien conscience, un peu vain. Mais ça me titillait terriblement. Et de même, dernier souvenir d'enfance, quand on partait en vacances, je suppliais mes parents pour qu'ils me disent quel était l'itinéraire qu'on allait prendre. Et une fois que je le savais, je prenais toutes les cartes routières et je notais sur des feuilles que je scotchais aussi les unes aux autres. J'aimais bien scotcher. Je faisais des sortes, un rouleau sur la route, mais avant voyage, contrairement à Kerouac. Et je notais tout ce qu'on allait croiser. Donc, ça obligeait mes parents à prendre l'itinéraire qu'ils avaient choisi au départ, parce que sinon, ça devenait très frustrant. Et je disais, tiens, dans 50 mètres, on va croiser une voie ferrée, ou dans 100 mètres, on va croiser un fleuve. J'ai toujours éprouvé ce besoin viscéral. Et quand Street View est arrivé dans ma vie, donc en 2000, les premières images datent de 97, mais moi, j'ai commencé à m'y intéresser en 99-2000. Je me suis dit, c'est fantastique, c'est un outil qui permet d'appréhender le monde, qui me permet, moi, de voir un monde où je ne suis pas, en fait, et un monde qui m'est, a priori, plutôt éloigné. Une des choses qui, moi, me transporte dans ce projet, c'est que je me retrouve dans des endroits où je n'oserais pas aller dans la vie réelle. Enfin, je suis allé virtuellement dans... dans des endroits où j'aurais peur de mettre les pieds, moi, personne vivante, parce que je suis pas un aventurier, je suis plutôt du genre trouillard et que je me sens pas d'aller dans des bons lieux sinistrés, je me sens pas l'âme d'un reporter, d'un grand voyageur, je suis un voyageur de chambre, quoi. Qu'est-ce que j'avais prévu de vous dire ? Souvent, on me demande, mais pourquoi vous faites pas... est-ce que vous êtes tenté de faire un voyage, un carnet de voyage, par exemple, d'un voyage dans le réel ? Et je pense que ça ne m'intéresserait pas du tout. Je pense que là, les espaces à explorer, les nouvelles frontières, pour moi, elles sont dans l'univers numérique. Dans les années 50, ça pouvait être... fantastique, merveilleux, et puis ça l'est toujours pour d'autres. Enfin, aujourd'hui, c'est merveilleux de voyager dans le monde, d'y aller directement. Mais moi, j'ai l'impression que là où il y a quelque chose à chercher, c'est dans les univers numériques, et particulièrement quand dans ceux qui donnent l'apparence d'être pauvres. En fait, le studio de Google, a priori, c'est... on est plus ou moins fasciné une fois qu'on est dedans, mais je pense que la plupart des gens ne sont pas fascinés du tout par l'outil, c'est de l'image médiocre. Il y a une image toutes les, en fonction de la vitesse de la voiture, qui balaye les rues. Il y a une image tous les 5 mètres, tous les 10 mètres, tous les 20 mètres. C'est plein de creux, c'est plein de vides. C'est l'image qui est souvent de médiocre qualité, mal éclairée. Et moi, ma préoccupation, c'était de savoir si de ça, en fait, on pouvait essayer de comprendre quelque chose du monde à partir de cet outil. Et est-ce qu'on pouvait nourrir un travail, artistique, et où peuvent se mêler texte et image. Je tiens, moi, même si par exemple le livre c'est que des textes, parce qu'il y a 12 images dedans, mais pour faire des petites respirations, mais c'est un texte de littérature. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est de travailler, c'est aussi de travailler l'image. L'image, je ne la recadre pas. Enfin, ce qui m'intéresse aussi, c'est de ne pas recadrer, de ne pas. Dans le film, le réalisateur a parfois zoomé dans des images, mais moi, sur mon blog et quand je montre des images dans des expositions, ce genre de choses, je garde toujours l'habillage de Google ou de Yandex, qui est l'équivalent de Google russe, même si maintenant Google est aussi en Russie, mais pendant un temps les territoires de l'Est n'étaient accessibles que par un système équivalent, mais qui appartenait à Yandex, qui est le Google russe, pour faire simple. Je tiens à ce que l'habillage de Google ou de Yandex en fait soit présent sur mes images. En fait, je revendique pas. En fait, je fais des images sans faire d'images. Je revendique le fait d'avoir un regard sur des images. Mais je revendique pas forcément les images en elles-mêmes. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à l'heure où tout le monde sample, à l'heure où, la notion de droit d'auteur évolue, et que pour moi, je tiens à dire que je fais des images dans l'outil de Google, je pervertis d'une certaine façon l'outil. Ce qui me plaît aussi, c'est d'imaginer que tous autant que vous êtes dans cette salle, vous pouvez refaire exactement les mêmes images à la façon du Pierre Ménard imaginé par Borges, qui veut réécrire Don Quichotte dans le moindre détail avec exactement les mêmes mots, les mêmes lettres, les mêmes virgules aux mêmes endroits. Vous pourriez très bien, vous, ce soir en rentrant chez vous, retourner sur les lieux de que j'ai visités et retrouver, sauf si les lieux ont été actualisés, parce que Google... Dans certaines régions, en fait, les régions pour eux les plus attrayantes, qui sont la Californie, New York, Paris, Londres, ils font régulièrement des campagnes de réactualisation, et donc il y a des endroits en fait où les images se réactualisent. Mais mis à part dans ces endroits, vous pourriez vous aussi plonger exactement dans mon image, quoi. Et quelque part, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Et c'en est un point tel que ça arrive que des gens m'écrivent, m'envoient des mails pour me dire. Je voulais vérifier que ça existait bien, le truc que vous évoquiez dans votre blog, donc je suis allé voir. Puis est-ce que vous avez repéré, là, sous la voiture, il y avait un chat. Et en fait, la personne s'était promenée dans mon image, enfin dans l'image que j'avais captée. Et l'image tournant à 360, en fait, il avait commencé à se promener dans le champ. Et il avait vu d'autres choses. Et voilà, en fait, j'adore qu'il puisse y avoir ce monde et ses ramifications. Ce que je peux dire, c'est que une autre chose que j'aime bien, c'est que je passe mon temps à faire des bonds. En fait, j'ai l'impression d'avoir des bottes de 7 lieues. Je passe d'un endroit. Enfin, c'est très pratique quand on visite une ville de pouvoir rebondir à 500 mètres d'un point en une fraction de seconde. C'est très pratique aussi. C'est très pratique. J'ai intégré dans ma pratique de toujours tourner sur moi-même, parce que l'image étant à 360 degrés, en fait, il y a une sorte de peur viscérale qui est un truc vachement bien qui soit derrière quand on tombe. Et donc, je passe mon temps à tourner sur moi-même dans Street View, ce que je ne fais pas, même quand j'ai un appareil photo, quand je suis dans la rue. En fait, je pense que les risques d'être pris pour un fou, de se payer un poteau, seraient relativement importants, en fait, à tourner sur soi-même. On ne pense pas à le faire dans la vie, mais alors que c'est... En fait, ça permet, d'une certaine façon, de voir le monde autrement aussi. En fait, j'avais un prof qui nous disait tout le temps, sur vos itinéraires habituels, pensez à aller sur le trottoir d'à côté, enfin, le trottoir d'en face, et vous verrez le monde différemment, en fait. Et il avait raison. Enfin, je sais pas, on peut faire. Enfin, moi, je fais régulièrement l'expérience sur les trajets quotidiens Je vois bien que je prends toujours le même trottoir. Et dès que je me mets sur le trottoir d'en face, d'un coup, je me dis « Ah tiens, cet immeuble, il est comme ça. » Tout ça. Enfin, je vois des choses que je vois. Et ben, j'ai l'impression que cet outil me permet ça aussi. Il permet aussi de voyager selon des considérations qui sont pour le moins étonnantes. Il permet de voyager, par exemple, suivant une latitude ou une longitude. Moi, je trouve ça intéressant, par exemple, sur le 43e parallèle nord, on peut passer de Sapporo à Vladivostok, à Marseille, à Myrtle Creek aux États-Unis, puis à London, Ontario. On peut aussi voyager en fait en fonction d'homonymie. Enfin, j'ai fait des postes, par exemple, où je comparais Joinville en banlieue parisienne avec Joinville au Brésil. Il y a plein de déclencheurs possibles de voyage qui seraient impossibles dans le réel, et c'est une des choses qui moi m'attire aussi dans ce travail. Un autre truc, c'est en fait tout à l'heure je parlais des campagnes de réactualisation d'images. Il y a quand même quelques endroits en fait où, à force, il finit par y en avoir quelques-uns. Où il y a des strates. En fait, il y a en Californie, il y a eu 5 ou 6 campagnes de réactualisation d'images. À Paris, il y en a eu 5 ou 6 aussi. Et on peut accéder à ces strates, en fait. Donc, moi, j'essaye justement de voir comment un lieu bouge dans le temps à travers cet outil. Soit même quand je me suis rendu en 2000 dans un endroit, en fait, j'aime bien retourner voir à quoi ça ressemble aujourd'hui. Alors, si ça n'a pas changé, ça n'a pas changé, mais peut-être mon regard a changé. Et s'il y a une réactualisation de l'image, en fait, je trouve ça génial de pouvoir voir les enseignes qui changent, les boutiques qui ferment, les parterres de fleurs qui poussent. En fait, pendant longtemps, j'ai pensé que je faisais qu'un voyage dans l'espace à travers ça. Et c'est incroyablement un voyage dans le temps, et c'est particulièrement un voyage dans le temps, parce que les images dans lesquelles moi je me promène sont les traces d'un passé. Toutes les images sont enregistrées dans le meilleur des cas quelques semaines avant que moi je me promène dedans, parfois quelques années. Et donc les gens que je croise, il y en a certains sans doute qui sont morts, il y en a qui ont, leur vie ont changé radicalement de ça. Et en fait, je trouve ça particulièrement fascinant finalement de me dire que ces images que je crois sont un peu comme la lumière des étoiles qui nous parvient avec quelques années-lumière de décalage. En fait, j'ai vraiment l'impression de voyager au cœur de fantômes, de présences lointaines. Je trouve ça fascinant. Par exemple, je crois que c'est à Cleveland quand il y a eu un type qui s'appelle Ariel Castro. On a découvert un fait divers sordide il y a 2-3 ans, en fait. Ce type qui avait séquestré 3 femmes et une enfant née en captivité à Cleveland. Mon premier réflexe, parce que souvent quand je vois une adresse ou quand j'entends parler d'un endroit, mon premier réflexe c'est d'aller voir. Donc je suis allé voir à quoi ressemblait cette maison à Cleveland où il avait enfermé ses femmes. Et je me suis rendu compte que les images qui étaient captées par la Google Car en fait dataient de 2009 et donc du temps où ces femmes étaient là à l'intérieur. Et c'était fascinant de se dire que voilà, en fait, derrière cette façade, le drame était là, en fait, et l'univers des possibles est incroyablement grand derrière ces images. Pour moi, ça éveille des envies d'écriture, des envies de même que le fait que finalement on n'est qu'une, enfin que il y a eu une image faite tous les 5-6 mètres et tout ça, que le monde dans lequel je me promène soit fragmentaire, me donne incroyablement envie d'imaginer ce qu'il y a entre les images, quoi. Enfin, d'imaginer le monde qu'il y a dans les creux, finalement. Et par exemple, j'ai fait une série de posts sur une femme qui courait dans Bogota pieds nus, et on la voit courir, et puis d'un coup, la Google Car a avancé, et puis... impossible de savoir qui était cette femme, comment. Et en fait, je trouve que, pour moi, comme déclencheur d'écriture, c'est un truc génial, quoi. Je suis en train de me rendre compte que je vais à toute vitesse. Mais bon. Pour Éclat d'Amérique, donc, ce livre, j'ai choisi... Au départ, j'ai choisi de... En fait, c'est une sorte de conte de fées. En fait. Donc, j'avais un blog qui durait depuis 4 ans, et puis... J'étais fan inconditionnel d'une maison d'édition qui est l'édition Inculte. Réellement, en fait, je crois qu'à l'époque, la maison d'édition avait 105 bouquins en rayon et moi, je devais en avoir 48. Enfin, c'était vraiment ma maison d'édition préférée du monde, quoi. Et je travaille par ailleurs un peu dans la presse, dans l'édition, et j'ai travaillé il y a longtemps dans l'édition jeunesse. Et donc Thierry Magnier, éditeur jeunesse, est un copain, et il m'avait dit, tiens, voilà, et maintenant il est chez Actes Sud, et il m'avait dit, si tu veux, je te fais rentrer chez Actes Sud, et tout ça, enfin, il n'y a pas... si tu veux, tu peux essayer de leur proposer des choses, et tout ça. J'avais dit, non, moi, je veux être chez Inculte, je ne veux pas être chez Actes Sud. Enfin, tout le monde m'avait regardé avec des grands yeux, en me disant, enfin, je suppose, en me prenant un peu pour un crétin. Et un jour, Jérôme Schmitt, donc éditeur chez Inculte, m'a appelé. C'était un dimanche matin et je rentrais de vacances. J'avais roulé toute la nuit, j'étais dans la cuisine en train de boire un café, la famille dormait. Et le téléphone a sonné, c'était lui pour me dire qu'il voulait faire un livre avec moi. Donc j'étais incroyablement ému. Et je dis, ouais, génial. Il m'a dit, vous avez des idées? Je dis, bah oui, bien sûr. Enfin, j'en avais pas la moindre. Mais on a convenu d'un rendez-vous 3 jours plus tard. Donc je suis allé voir qui était Jérôme Schmitt sur Internet pour me faire une idée du personnage. J'ai découvert qu'il était qui suivait les auteurs américains chez Inculte. Et donc je me suis dit, bon, je vais peut-être essayer de lui proposer un truc sur les États-Unis parce que ça va lui plaire. Et puis les États-Unis me paraissaient un territoire génial. D'abord parce que j'y suis jamais allé et que j'aime bien voyager virtuellement dans les endroits où je ne suis jamais allé. Même si c'est intéressant aussi de comparer la vision qu'on a des choses. Mais moi, je préfère virtuellement aller sur des territoires que je ne connais pas. Je trouvais ça bien aussi parce que les États-Unis sont on est abreuvé d'images de mythologie américaine. On sait le bruit que font les sirènes aux États-Unis, on sait, à travers le cinéma. On sait. Moi, je me nourris beaucoup de littérature américaine, et donc je voulais confronter en fait mes médiocres images dans Street View avec finalement cette mythologie américaine. Et en plus, je trouve que c'est un territoire intéressant parce que, enfin, du coup, tout de suite m'est venue l'idée de voyager dans les 50 États. Enfin, je pense que ça serait compliqué enfin, c'est pas impossible dans le réel, mais ça prendrait pas mal de temps. Et là, je trouvais ça vraiment chouette, moi, de pouvoir voir justement les différences qu'il y a entre la Floride, Hawaï, l'Alaska, le Montana. Enfin, sachant que moi, je m'intéresse à ce que Pérec, il n'y a pas que lui, appelle l'infraordinaire. J'aime bien voir à quoi ressemblent les bordures de trottoirs, à quoi ressemblent les feux de signalisation, les panneaux, et tout ça. Et là, pour le coup, il y avait un corpus que je trouvais plus important. Donc, je lui ai proposé ça, en fait, de faire un voyage à travers les 50 États. Et il m'a dit banco, et j'ai ensuite, pendant 2 mois et demi, j'ai fait des milliers de captures écran et le matin avant d'aller bosser, et le soir en rentrant, j'ai écrit les textes qui font ce livre. Et c'était un moment incroyablement heureux parce que c'était un bain, mais fantastique. En fait, finalement, ces images, en fait, pour moi, sont des déclencheurs d'idées, vraiment merveilleux, quoi. Et voilà. Je propose que je lise quelques extraits. À Montgomery, capitale de l'État d'Alabama, j'ai vu un cinéma à l'ancienne sur lequel étaient peintes des images représentant des scènes du Magicien d'Oz, où d'autant on emporte le vent. On jouait, au moment où je suis passé, Captain America, Bad Teacher ou Crazy Stupid Love. J'ai vu un black à la carrure de footballeur américain, batte sur vêtements coupés, serviette sur l'épaule et bonnet de rappeur, qui récupérait après un sprint. Il était à l'entraînement. J'ai vu des panneaux « Beware of the dog » ou des traces de rouille sur des enseignes Coca-Cola. À Montgomery, j'ai vu un type trimballant ses seules richesses sur un diable. Elles étaient entassées dans des cartons de sacs et des sacs plastiques. Le type était noir lui aussi et c'était à l'angle de Montgomery Street et de Dexter Avenue. Juste à côté de la plaque, rappelons qu'à l'arrêt de bus qu'il y avait là, le 1er décembre 1955, une femme, Rosa Parks, avait refusé de céder sa place à un blanc. À Fort Smith, Arkansas, j'ai vu à hauteur d'un passage à niveau des wagons trémis de chaque côté de la rue, tout près de celle-ci, comme si on avait coupé le convoi en deux et poussé les wagons pour laisser passer les voitures. C'est du reste à la réflexion sans doute de cela qu'il s'agit. Le long de certaines des rues du centre-ville, j'ai vu des drapeaux « Historic Road 66 » accrochés au poteau, bien que l'Arkansas ne figure pas à ma connaissance sur le tracé de la route légendaire. J'ai vu un panneau publicitaire sans aucune marque visible, le panneau avait été en partie arraché, seul subsistait un slogan « Your Road to Success ». J'ai vu une station essence Finish Line, un McDo, une voiture de shérif garée sur le parking du Family Cleaners and Laundry. J'ai vu un écriteau sur un grillage « Smile, you're on camera ». J'ai vu des pierres tombales entassées à l'entrée d'un cimetière, elles venaient d'arriver, elles reposaient à proximité d'un engin de chantier. Sur l'une d'elles, on pouvait lire un nom, John Holden. À Chicago, j'ai vu de la neige sur les trottoirs et des traces de pas en creux dans cette neige. J'ai vu des immeubles 1900 se refléter sur une façade de verre. Dans une salle de spectacle minuscule, j'ai vu un rideau de scène vermillon tiré sur un sol doré. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à David Lynch. J'ai vu mes initiales sur une enseigne. J'ai vu un fanion des New Old Boys, club de football argentin, accroché au mur d'une boucherie. J'ai lu l'heure à une horloge et il était 12h25. Plus tard, à une autre horloge, il était 11h40. J'ai vu des photos de Betty Page suspendues au-dessus des vêtements dans un magasin de fringues plutôt vulgaire. Et aussi, toujours dans le même magasin, d'autres photos de femmes nues, inconnues. Dans un salon de coiffure, j'ai vu un Christ en croix accroché entre deux miroirs. Dans un bar, j'ai lu un mot scotché au-dessus d'un groupe de prises électriques. « This outlet is not for public use ». À Indianapolis, j'ai vu une flaque d'eau évoquant étrangement le contour d'une silhouette humaine, de celle qu'on voit sur les portes des toilettes. J'ai vu la ville de nuit, du haut d'un restaurant panoramique situé au 36e étage d'une tour d'affaires. J'ai traîné à l'intérieur d'un barbershop, dans un quartier chic, salon d'attente avec des fauteuils cossus, des boiseries, de l'espace. Il y avait un cireur de chaussures, noir, et les coiffeurs portaient la cravate, rouge. Au marge ouest de la ville, j'ai observé une fresque de plusieurs centaines de mètres, faite de dessins d'enfants, peintes sur les murs le long des complexes de l'industrie lourde. Ce n'était pas la première fois que je croisais pareilles fresques en pareils endroits. J'en avais vu à Cleveland, à Rouen, en France, ailleurs encore, toujours à proximité d'usines pétrochimiques ou d'acieries. Je me suis demandé, les dessins d'enfants suffisent-ils à enjoliver le paysage? Suffisent-ils à rendre l'air plus respirable? À Bangor, dans le Maine, j'ai vu des maisons semblant sortir d'un jeu de Monopoly. J'ai vu une enseigne Carolina Sports and Spirits, sur fond de palmiers stylisés, ou alors les fenêtres d'une maison de deux étages qui réfléchissaient parfaitement le paysage de l'autre côté de la rue, si bien que l'on croyait voir en transparence à travers le bâtiment. À Minneapolis, j'ai observé des lignes à haute tension au-dessus des habitations, ou un éclat dans le bois d'un poteau électrique. C'était à proximité d'une usine de retraitement, et vu la hauteur de l'impact, il y a fort à parier que c'est un camion qui l'avait occasionné, à moins que ce ne soit un tir de carabine. Je suis passé à hauteur d'un garage bordélique le long d'un chemin de terre devant lequel se tenait un homme, un escabeau à la main, un aspirateur gisait à ses pieds. Et surtout, à ses côtés, grandeur nature, était posé un improbable R2-D2. Plus loin, plus près du centre, j'ai croisé une femme avec un débardeur Local is Beautiful et 2 minutes plus tard, dans un bar, une serveuse qui portait un t-shirt sur lequel il était sérigraphié « Your grandpa drank here ». J'ai repris mon errance. J'ai croisé des sœurs jumelles habillées en rose. J'ai vu une femme voilée derrière la caisse d'une épicerie. Un siège de bureau abandonné dans un parterre de fleurs, un homme en fauteuil roulant motorisé, un accident de la route dans lequel un monospace était impliqué, je suis passé sans m'arrêter. J'ai vu un portrait d'Obama collé à une fenêtre, des bâtiments de l'armée du salut, des types qui zonnaient, et puis une capsule géante, Grain Belt Beer, en hauteur, posée sur une structure faite de tubes de métal, c'était à proximité du Mississippi, à hauteur de Nicollet Island. Pendant des décennies, petite musique visuelle incontournable, la capsule géante avait éclairé de ses néons la nuit minéapolitaine, lettre par lettre, puis toute réunie, saccade répétée. Quand cette capsule géante avait été érigée en 1940, c'était un peu pour dire que la prohibition était de l'histoire ancienne. Plus tard, si elle avait brillé, c'était pour signifier la toute-puissance de la société de consommation. Mais aujourd'hui, ce qu'elle évoquait surtout, à travers sa déliquescence, c'était les difficultés que traversait le pays. À Providence, État de Rhode Island, j'ai vu un homme se baisser longuement pour ramasser, semble-t-il, une pièce de monnaie. J'ai observé une fille sur une moto, Uggs à moumoute au pied et mini-short en jean duquel débordaient ses fesses. Sur une affiche rose sur fond de mur rose, c'était au City Girl Cupcake, j'ai lu « Keep calm, there's nothing a cupcake can solve ». J'ai aperçu trois filles, à peine 20 ans, tenues légères, occupées à décharger le contenu d'un pick-up, et ailleurs dans la ville, deux garçons sensiblement du même âge, mais bien plus habillés. Et eux vidaient un camion de location. À Providence, les cheminées d'une centrale électrique, quasiment en centre-ville, m'ont fait penser à la Battersea Power Station qu'on voit sur la pochette d'Animals des Pink Floyd. Au-delà d'un grillage surmonté de barbelés, en partie masqué par une porte ouverte, j'ai aperçu les jambes d'une femme en short et ballerine. Peut-être prenait-elle le soleil. En tout cas, je me suis demandé ce qu'elle foutait là. À Chattanooga, Tennessee, j'ai observé un homme et une femme qui discutaient dans un bureau de la chambre de commerce. Il se tenait debout derrière la baie vitrée d'un bureau aquarium. Lui portait une chemise bleu clair sans cravate, les mains dans les poches de son pantalon pour se donner une contenance. Elle portait un pull blanc col roulé, ses cheveux étaient détachés. Je n'entendais rien de ce qu'ils se disaient, mais à leur mine, j'ai tendance à penser que l'heure était grave. À Chattanooga toujours, j'ai visité un bus aménagé pour le don du sang. Une femme était en train de donner le sien, allongée sur un fauteuil qui m'a rappelé celui qu'il y a chez mon dentiste. Le garrot sur son bras était en matière élastique bleu-verte. La femme portait un t-shirt sans manches, rayé noir et gris. Elle tenait dans sa main une barre énergétique encore dans son emballage. À proximité de la place potentielle du chauffeur, le bus était évidemment à l'arrêt, était posée une glacière pleine de glaçons dans laquelle surnageaient des canettes de Sprite et de Coca Zero. J'ai également photographié quatre chaises de jardin vert bouteille. Elles étaient installées en arc de cercle à l'arrière de la guérite d'un gardien de parking, au milieu de caillasses, d'objets abandonnés au sol, gobelets, emballages, bref, dans une presque décharge. Et je me suis dit que c'était là un drôle d'endroit pour se retrouver entre collègues ou amis. À Casper, Wyoming, j'ai vu un pick-up chargé de tout un fatras, vestiges de fenêtres, restes de meubles, planches, canapés élimés, et en face, dans la même rue, une remorque derrière un autre pick-up chargé de branches d'un arbre qui venait d'être élagué. Plus loin, sur la façade d'une bibliothèque, j'ai vu un placard 4 mètres au moins de large qui rappelait aux étudiants de ne pas oublier leur carte d'emprunt. J'ai vu la façade d'un bowling bleu et blanche, sans fenêtre. Le bowling s'appelait Eagle Bowl, le L de Eagle dont le logo était remplacé par une quille, le haut de bowl par une boule. J'ai vu une biche de plâtre grandeur nature peinte de façon réaliste, si bien qu'on aurait pu croire l'animal vivant s'il n'y avait eu le socle, peint en vert vif. À Lodi, New Jersey, j'ai suivi la course d'un ballon. C'était un ballon gonflable de ce qu'on voit sur les plages, composé de fuseaux multicolores. Il roulait au fil des pentes et des courants de l'air. 20 minutes durant, j'ai avancé à son rythme. Une course faite d'à-coups, de pauses plus ou moins longues. Le ballon était vert, jaune, rose. Durant ces 20 minutes, il a parcouru une bonne centaine de mètres, ce n'est pas rien. J'ai essayé de visualiser sa course vue du ciel, une bille dans un labyrinthe. Je me suis dit aussi qu'il y avait peut-être là, derrière une des fenêtres alentour, une femme, un homme ou un enfant qui suivait notre avancée commune et qui s'interrogeait sur le sens à lui donner. Je ne sais pas d'où il était parti, d'où il s'est échappé, je ne sais pas comment il a fini. J'ai pensé un temps le rattraper, le prendre, le dégonfler, le glisser dans ma poche. Finalement, j'ai renoncé. C'était à hauteur de Becky Drive, j'ai noté l'adresse. Il a poursuivi sa route, dévalant la rue avant de bifurquer à droite pour disparaître derrière un garage peint en blanc. J'ai attendu 2 minutes encore, et puis, à mon tour, je suis allé voir ailleurs.